Salut les amis! Être grow, c'est un peu comme être un savant fou. On teste plein de nouvelles expérimentations pour trouver la solution qui va nous générer de la croissance. Quelles sont les bonnes stratégies à mettre en place? Quelles sont les méthodes qui marchent? Quel est le bon mindset à avoir? C'est l'objectif de Conseil de Growth, répondre à une problématique bien précise avec des solutions concrètes que tu peux implémenter dans ton business dès demain. Je suis Alexis Bouvet, cofondateur de la marque Tailleur et de l'entreprise Growth Hiring, et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute!
Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Conseil de Growth. Et aujourd'hui, on est en compagnie de Corentin, CEO de Revoltrain. Donc ça me fait trop plaisir de t'avoir ici. On avait un petit peu échangé en amont et je connais bien l'univers The Quest dont tu fais partie. Déjà, Corentin, comment tu vas?
Bah ça va au top. J'espère que toi aussi, même si on s'est déjà vu avant, mais c'est toujours un petit peu semblant de début de
podcast.
Mais
oui, ça va très bien. Comme tout à l'heure, exactement. Mais ouais, ça va très très bien. Est-ce que tu peux te présenter, pour ceux qui nous écoutent, voilà, expliquer un peu ce que tu fais, ce que tu as fait?
Ouais, carrément. Du coup, moi de base, comme pas mal de gens, donc globalement mon âge, donc 26 ans, on va parler que du pro évidemment, mais je suis un petit bidouilleur d'internet de manière générale. Donc j'ai commencé très tôt, j'ai très vite eu la chance d'avoir un ordi à la maison et de faire plein de choses dessus. Donc j'ai fait plein de petits sites, du SEO, du e-commerce, etc. Mais depuis que j'ai 13, 14, 15 ans, j'ai beaucoup fait ça. Après, j'ai fait pas mal de freelance, particulièrement en marketing et en growth justement. J'étais tombe amoureux de la discipline, c'est la partie quand je crée mes petits projets, certains ont connu un peu de succès, on voit même pas mal pour certains. C'est la partie où j'ai eu un peu un petit crush. Et du coup, j'en ai fait énormément en freelance. Et après avoir fait ça, j'avais fait un peu le tour. Et je m'étais dit, tiens, je voudrais faire des choses plus ambitieuses et plus gros projets. Et c'est ça qui m'a amené du coup à créer Revoltrain. Et du coup, Revoltrain, c'est une école qui forme aux métiers digitaux, donc comme community manager, rédacteur web, monteur vidéo, sales à distance, etc., etc., etc. Donc c'est une école qui a été construite autour de l'idée de, un peu post-Covid, de former aux métiers qui donnent accès à un gros niveau de liberté, à minima de choix. Donc, c'est-à-dire que si tu veux être plutôt salarié ou freelance, est-ce que tu veux être à distance, en bureau, un peu des deux, etc., etc. Et ça, c'est des métiers qui te laissent cette liberté-là de choix, donc sans jugement, mais de comment se dire, ok, qu'est-ce qui m'intéresse ou pas. Et du coup, en fait, on l'a fait là-dessus. Et pourquoi j'ai accroché à ça, c'est comme je te disais, dans mon parcours, je fais pas mal de freelance avant. Et le côté freelance, c'est un peu ça qui m'a fait grandir, ouvrir des niveaux de liberté plus élevés. En fait, je viens d'une campagne assez profonde, etc., où ça n'est pas du tout accessible. Et du coup, je m'étais dit, tiens, les métiers digitaux m'ont ouvert cette liberté. Est-ce qu'on l'ouvrirait pas à plus de Corentin ou Corentine, tu vois? Donc c'est un peu ça la genèse de l'histoire.
Trop bien. Ouais, c'est trop cool. Franchement, ce que vous faites, moi, j'y crois beaucoup. Tu vois, en termes de même d'éducation, moi, je vois très bien les parcours où tu te retrouves à aller à l'école, tu vois, école de commerce, etc., ou université. Au final, c'est pas trop ce que tu veux faire, mais tu veux déjà être dans le concret, tu vois, t'as déjà envie de travailler. Et moi, je sais que j'avais pareil monté un projet entrepreneurial à côté de mes études. Et c'est vrai que tu vois, d'avoir une école digitale en ligne qui dise, bah attends, mais je sais quel type de personne tu es, je sais que ces parcours-là sont moins pour toi, mais toi, tu vas aller dans du concret et avoir de la liberté. Viens chez nous, moi, ça me parle grave. Donc, franchement, je trouve la vision est trop, trop cool. L'objectif là, c'est de parler du parcours. Des parcours de formation que vous mettez en place, c'est des parcours qui sont en ligne. C'est pas forcément facile en plus de former les gens en ligne. C'est des formations aujourd'hui qui cartonnent, qui marchent super bien. Et du coup, je voulais savoir, selon toi, quelles sont les bonnes étapes pour créer un bon parcours de formation?
Ouais. Déjà, la première chose que tu dis, effectivement, le en ligne, c'est hyper important de l'avoir en tête. J'en parlais quelques jours avec une personne justement qui voulait rejoindre Revoltrain. Et qui me parlait qu'il voulait, par exemple, il adore le côté éducation et il voulait y travailler dans des écoles physiques à la base. Et j'en parlais beaucoup avec lui, il me demandait c'est un peu quoi les différences, etc. Et c'est vrai qu'il faut avoir une notion que la formation en ligne a un pouvoir incroyable, qui est un pouvoir de scale, qui est qu'on peut toucher en vrai qui on veut sans barrière géographique, etc., si ce n'est celle de la langue. et économique évidemment. Alors que l'école physique, tu perds cet avantage de scale. Par contre, tu joues au mode de jeu genre facile. Pas dans le sens que c'est simple à mettre en place, que vous allez y arriver évidemment, mais c'est beaucoup plus simple de créer une émulsion, une réussite d'apprentissage dans du physique que du online. Donc déjà, pour les gens qui veulent mettre un parcours online, tu l'as dit et c'est important d'avoir en tête, vous prenez tout l'avantage marketing du scale. Par contre, comprenez que vous jouez au mode de jeu hardcore, quoi. C'est tout est plus dur. Donc ça, c'est la première chose qui est importante à avoir en tête. Et sinon, dans le parcours, ce que je te disais tout à l'heure, je n'ai pas vraiment itéré, je n'ai pas vraiment créé de framework ni rien. Mais de manière générale, je dirais, il y a 3-4 grandes étapes. Donc la première qui est clé, c'est le sujet, où on va, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, etc. 2, c'est le type de formation, parce qu'en fait, il y a énormément de manières de former en réalité. Et donc là, c'est une idée de matcher un peu tes ressources, ce qu'attend l'audience relativement au sujet, etc. 3, c'est la mise en place pratique et l'itération continue, parce qu'une formation, c'est un peu comme le logiciel, tu as un avantage, c'est que tu peux très souvent mettre à jour. C'est pas un resto où faire toute la déco, c'est un drame, ça te coûte énormément. Là, tu peux le faire. Donc, il y a vraiment cette mise en place pratique. Et après, il y aura, je dirais, une quatrième étape bonus qui est à se poser de « Ok, j'ai formé 20 élèves, c'est ouf. Est-ce que je veux un rythme de croisière comme ça? Est-ce que je veux scale ou pas ?» Tu vois, je découperais vraiment ces quatre grandes étapes. Sujet, type de format, mise en pratique et itération, et scale, globalement.
Ouais, ça me parle grave. En vrai, je pense qu'on pourra, tous les deux, un peu, même dans l'épisode, apporter un peu de la valeur, vu que nous aussi, on fait de la formation. Donc, je pense qu'il y a des idées qui vont se rejoindre et ça va être plutôt pas mal. Je suis assez d'accord avec toi, tu vois, sur la partie première étape, le sujet. C'est toujours un truc qui est un peu compliqué. Moi, j'ai l'impression que le sujet, on a une intuition, tu vois, on va se dire, ah, franchement, ça a l'air pas mal et tout, il faudrait qu'on mette ça en place. Souvent, on demande pas assez, tu vois, aux apprenants ou aux gens qui vont potentiellement se former. Toi, comment tu vas trouver, justement, le sujet qu'il faut pour les apprenants? Comment tu vas déterminer un peu les étapes de ton programme?
Ouais, et c'est hyper important, d'autant plus qu'on est hyper inégaux là-dessus. Mais vraiment hyper, hyper, hyper inégaux. Et je le dis parce qu'en fait, en gros, avant Revoltrain, Revoltrain s'est lancé avant dans une autre boîte qui s'appelait Freeland, qui était globalement un publisher. Donc un publisher, c'est, on va dire, une agence, mais qui possède des trucs, quoi. Concrètement, je résume très simplement. Mais... Et cette agence, en fait, ce qu'on faisait, ce publisher, c'est qu'on lançait plein de formations en s'associant à des gens et on se partageait du coup les revenus de cette formation. Donc on s'associait à des têtes connues et nous, on était dans l'ombre, on faisait un peu rouler le business. Et c'est comme ça qu'on a lancé Revoltrain. C'est à force d'avoir lancé plein de monde, on se dit « Ok, on va avoir notre bébé à nous, on a lancé Revoltrain. » Et cette démarche, en fait, on s'en est rendu compte parce qu'on a lancé plein de trucs. Et franchement, le taux d'inégalité, il est énorme. Et ça, on ne peut pas le prédire d'avance. Il faut, ça va être bateau au possible, mais il faut vraiment être dans une démarche. Pour le coup, on en parlait avant un peu des côtés un peu ordre, chaos, etc. Sur des phases de sujet, il n'y a aucun débat. Il faut être dans une démarche de chaos, c'est-à-dire de lancer très, très vite, tester plein de trucs. J'en sais rien, tu as de la chance d'avoir un peu d'abonnés. Tu lances une format comme si elle existait, elle n'existe pas, c'est pas grave. Tu récoltes les feedbacks, tu refais comme ça. C'est vraiment hyper important. Ou si tu n'as pas d'abonnés, bah, j'en sais rien, tu te mets d'accord avec quelqu'un qui peut te mettre en avant, ou tu fais de la pub, ou tu envoies des emails, qu'importe. Mais c'est très vite important de matcher ton idée de sujet à ton audience. Parce que tous les sujets sont inégaux pour plein de raisons. Par exemple, une des raisons qui peut jouer qu'un sujet prenne ou pas, c'est est-ce que les gens ont quelque chose à faire ou non. Un autre sujet qui est important dans le sujet, justement, c'est la maturité du marché. C'est-à-dire, par exemple, il y a des marchés, on peut avoir des formations très simples, mais comme ils sont adressés, par exemple, à des populations un peu plus âgées et qui sont moins habituées à être spammées de formations, eux vont se contenter de moins. Alors qu'au contraire, par exemple, sur nos générations à nous, le niveau d'attente moyen d'une formation est énorme. Et toutes ces choses-là, toutes ces choses un peu, il y a plein de choses, hein, c'est vraiment une partie immergée de l'iceberg où il y a plein de facteurs. Tu peux pas le savoir sans que tu aies lancé. Et en plus, même en ayant lancé, tu n'auras pas les vraies raisons. Et il faut t'en remettre un peu à la chance, j'abuse un peu, mais c'est limite ça, de dire, ok, est-ce que ça clique ou pas? Est-ce qu'il y a un truc qui prend pas? Et pour ça, il faut lancer plein. Et franchement, vous prenez pas la tête, vous faites une page d'explication sur la page d'explication, le plus important de très loin, c'est votre titre. Une formation, c'est un titre, hein, à la base. Et après, vous testez le sujet par un moyen de distribution quelconque et vous prenez plein d'appels, surtout plein d'appels. Et là, vous aurez un ordre d'idée de si la formation prend ou pas. Et quand je dis je précise ça parce que j'y ai pensé en parlant, le sujet, ce qui est important à savoir pour le sujet, c'est que je ne vous dis pas de changer d'univers. C'est-à-dire que si vous êtes dans la médecine, faites que des formations de médecine. Mais au sein de la médecine, en fait, vous avez tellement de petites variations possibles, il faut vraiment toutes les tester, quoi.
Ouais, super clair. Donc ouais, effectivement, je vois ce que tu veux dire, hein. Vraiment demander à ton marché, demander à ton audience, à ta communauté, à tes abonnés, pour savoir quel est le bon sujet. Et même, tu disais, tu vas passer des calls. Alors, c'est tout bête, hein, mais tu as du quantitatif où tu vas avoir par exemple un nombre de clics, mais derrière il y a aussi le qualitatif de ok, qu'est-ce qu'ils en pensent vraiment, quelle est leur situation, et vraiment se passe à mettre à la place de son persona, quoi. On le dit souvent, mais on le fait vraiment pas du tout assez souvent. Tu as une idée en tête, on se dit vas-y, on va la tester, et en fait tu aurais demandé à ta communauté ou à tes abonnés, en fait ils t'auraient tous dit bah surtout pas, ne va pas là-dessus, et du coup tu auras perdu, je dis pourquoi, un mois de création à te mettre sur le truc.
Ouais, et sur le sujet d'ailleurs, c'est bizarre, c'est que sur une V1, t'es rarement ta réponse d'un sujet, c'est souvent sur la V2. C'est post-premiers appels, et là, tu ressors une nouvelle version de ta première idée de base, et c'est sur celle-là, en général, où t'auras ta vraie réponse de est-ce que ça prend ou pas. La première, en vrai, elle est quasiment toujours pourrie, mais par contre, la seconde, où t'as eu des retours d'appels, etc., là, tu vois s'il y a un truc qui prend ou pas. Mais il faut la phase appel, quand je dis appel, ou ça peut être échange de WhatsApp, qu'importe, mais cette phase-là, elle est... Surtout dans de la formation, parce que la formation, il faut comprendre les sous-jacents rationnels, émotionnels, qu'est-ce que les gens n'ont vraiment envie, pas envie, c'est quoi les raisons cachées, les raisons réelles. T'as beaucoup, beaucoup de variables, pour le coup.
Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Trop bien. Donc, ouais, effectivement, le sujet. Une fois que tu as déterminé le sujet, tu disais le deuxième point, c'était le type de formation. C'est quoi les différents types de formation que tu vois et comment tu as choisi le tien, par exemple ?
Ouais, c'est une bonne question. Je les ai pas tous en tête, parce qu'en fait, t'as quasiment autant de formations que formateurs, mais t'as des, on va dire, des grandes familles. Je vais dire celles qui me viennent en tête, mais tu vas avoir de la formation vidéo pure. Tu peux avoir du, ce qu'on appelle de l'hybride. C'est ce qu'on fait à Revolt Train. Donc, l'hybride, c'est, tu rentres et tu sors quand tu veux dans la formation. Tu suis à ton rythme les vidéos. Par contre, tu as une partie accompagnement humain qui, elle, est plus cadrée. Tu as full distanciel, hybride. À l'autre bout, tu as de la cohorte. Donc, ça commence le... Tu vois, on est le 10 novembre, ça commence le 11. Et ça va jusqu'à telle date. Donc, tu as ça. Tu as physique aussi. Tu as aussi un peu des deux qui existent. Donc, tu vois, en fait, c'est à chaque fois, il faut le voir... C'est pour ça qu'il y a autant de formations que de formateurs, c'est qu'à chaque fois, c'est un peu des spectres, en fait. T'as des choix de level, et donc est-ce que tu vas être à 100% distanciel ou à 80%, et tu règles, en fait, tes jauges comme ça. Et nous, Revolt Train, le choix qu'on a fait, c'est complètement distanciel. Ça, c'est vraiment des raisons d'impact. C'est qu'avec Revolt Train, pour ça, notamment parce qu'on a beaucoup de moyens, en l'occurrence, par rapport à des formations classiques. Et c'était une volonté de toucher le maximum de gens, de pas se mettre de barrières géographiques pour aider le maximum de gens. Ce que je te disais en plus, comme mon cas, moi je viens du fin fond de la Bourgogne, c'est l'idée de pouvoir aider des gens qui viennent de ces régions-là, par exemple, ou des gens à l'étranger, etc. Donc nous, on a eu cette vocation-là, mais parce qu'on avait ces moyens-là en face, tu vois. On a fait de l'hybride, mais de l'hybride même avec le curseur beaucoup plus côté accompagnement. En réalité, il n'y a que la partie théorique en vidéo et le reste est ultra aidé. Il y a énormément de calls, etc. Bon, la vérité, c'est que nous, on doit avoir une armée de profs derrière. Donc, pareil, c'est toujours relativement à tes ressources. Donc, après, c'est des choix. Donc, tu vois, nous, par exemple, on est en train de quand même ajouter des parties physiques qui sont la vie étudiante. Donc, c'est un peu comme les voyages scolaires dans des écoles de commerce. C'est un peu ce qu'on est en train de mettre en place. Et on en a déjà fait un ou deux. Deux, je crois, si je n'ai pas de conneries. Et ces trucs-là, c'est des choses qu'on ajoute. Et à chaque fois, c'est des variables. Mais la chose à avoir en tête, c'est que c'est pas définitif. Il faut pas le voir comme un oui ou non, mais plutôt de dire où je mets le curseur, quoi.
Ouais, tu testes, tu itères. En vrai, c'est intéressant, tu as fait le format un peu hybride. Nous, on est dans ce même système-là aussi. Donc, je pense qu'on est arrivé un peu aux mêmes conclusions. Moi, les conclusions que j'en tire, c'est qu'effectivement, seulement du e-learning, bah, souvent tu décroches et même t'es loin un peu de ton, bah, tu vois, de ta communauté, des gens qui, tes apprenants et tout, tu vois, tu as même moins de retour marché ou même retour sur toi, ta formation. Donc, c'est quand même intéressant, tu vois, d'avoir de l'info comme ça. Et bah, surtout, culture de l'impact. Ça a quand même beaucoup plus d'impact d'avoir le truc un peu théorique en e-learning. Et après, bah, on fait mise en pratique avec des coachs. Et là, tu vois, on implémente. Et du coup, t'es obligé de mettre en place. Tu vois, c'est pas, j'ai regardé la formation, bon, c'est cool. Je reverrai peut-être dans 2-3 mois si je le mets en place, etc. Tu vois. Et toi, justement, comment il fonctionne ton format hybride? Ça m'intéresse de voir, tu vois, comment tu l'as réparti si tu prends un parcours type, par exemple.
Alors, nous, il y a plusieurs variables importantes. Déjà, tu as une communauté qui est hyper développée, du coup, qui est autonome. C'est-à-dire que nous, c'était construit de manière générale où tu as énormément d'accompagnement, etc. Mais que ça peut être suivi par tous les agendas. C'est-à-dire que tu es 1 heure par jour, pas 2 heures, tu viens d'un autre fuseau horaire, tout peut s'adapter. Donc, c'est parti de cette base-là et toujours dans la démarche, je disais, cette démarche de toucher le maximum de monde. Donc, pareil, tu te remets un level niveau dur de jeu en faisant ça. Mais ce qui fait qu'on a des cours que tu suis quand tu veux. On a la communauté qui est symbolisée par un Discord chez nous et un campus virtuel, c'est un peu comme les jeux à la Habbo Hotel où tu te promènes, etc., qu'on a développé. Tu as tes coachings de cours, donc sur des parties précises de cours ou des questions d'élèves ou de corrections directes. Et ça, on en a 3 par semaine en général, par level, en fait. Donc, pour les élèves avancés, intermédiaires et débutants. Et c'est groupé, okay. Ça. On a des coachings particuliers qui, eux, tu les réserves quand tu veux. C'est toujours l'idée de pouvoir suivre ton agenda. Donc, tu sais, c'est un calendly, tu réserves quand tu veux, etc. Et ça, c'est les profs qui corrigent tes exos. Et 3 en termes de coaching, on a les coachings mais qui sont plus sur la partie mentale où tu sens que tu décroches, t'es un peu moins bien, etc. Tu peux appeler, mais tu vois, on a un peu découpé sur l'aspect technique et mental, parce qu'une formation c'est un peu les deux en réalité. Et du coup, c'était construit tout comme ça, et le tout est borné en fait par des modules en fait dans l'école. Et ces modules là, tu ne peux pas passer au suivant tant que t'es pas validé par les profs, ce qui t'évite un peu ce syndrome Netflix de tu binge watch et t'as pas le level. Et du coup, au sein d'un module, nous, tu n'as pas genre, du coup, un cours, bêtement, mais tu as un cours, un exo, un petit tour sur la communauté, tu vas sur le campus, tu as un coaching individuel, coaching groupé. Et tu vois, en fait, nous, on en groupe tout, mais dans des modules bornés. Et en fait, c'est un peu comme si tu changeais de salle, en fait, à chaque fois. Tu vois. Donc, quasiment de nous, on appelle ça quasiment des classes, en fait, entre élèves où là, tu passes un peu de 6e à 5e, à 4e, à 3e. C'est un peu ça, la manière dont c'est construit chez nous.
Ouais, c'est ça. Et de manière accélérée, en gros, ton module, c'est ton année. En gros, et t'as tes cours, t'as ton prof qui t'aide. Pendant ton année de ces scolaires, normalement, bah, effectivement, t'es un peu en galère et tout. Là, c'est trop cool. Vous avez pensé surtout sur la partie mentale. C'est vrai que les gens peuvent décrocher. Et en fait, on a juste. Tu vois, on va juste envoyer des questionnaires, etc. Ouais. En vrai. Ça a pas d'impact, tu vois, les questionnaires pour vraiment solutionner le truc. Si t'as vraiment un coach dédié, c'est cool, tu vois. Tu vas vraiment pouvoir les aider
ça,
à passer à l'action.
C'est un sujet de ressources. Tu vois. Ouais. Il faut pas se mentir. Si tu veux mettre ça en place dans ta formation, soit t'as énormément de temps, soit t'es riche. Mais t'as pas 50 manières de le mettre en place parce que c'est du coût humain lourd. C'est,
ouais.
Et puis c'est en un vrai, management, des process, etc. Quoi.
Clairement.
C'est killer.
Ouais, mais c'est trop cool. Et après, du coup, t'as toute la partie, bah, tu valides tes apprentissages. C'est comme en fin d'année, si tu veux, t'as tes partiels, t'as tes examens et tout. Et après, tu passes à la classe supérieure, en gros.
Au lieu d'avoir une grande année, tu vois, nous, en fait, c'est des grands thèmes. Je dis n'importe quoi dans le montage vidéo. Ça va être, par exemple, donc, une énorme intro au métier. C'est la première année. Donc, ton module 1, ta deuxième année, ton module 2, c'est la partie technique du métier. Module 3, c'est la partie créative. En fait, on découpe en grands thèmes, comme ça.
Ah, c'est très cool. Et tes thèmes, ils durent combien de temps, à peu près, en moyenne?
Alors ça, c'est l'intérêt, c'est que nous, justement, on a voulu un truc hybride et sans limitation de temps. Donc, je ne sais pas si ça va durer à l'avenir, etc. Mais pour le moment, on n'a pas vocation à le changer. qui est de se dire, tout le monde n'a pas les mêmes agendas, le même niveau de base. Parce que nous, c'est vrai qu'il y a des gens, comme on touche beaucoup de monde, des gens qui ont déjà du level, d'autres qui n'en ont pas du tout. Tu as même des gens qui n'ont jamais touché d'ordi. Tu vois, tu as des grosses variations. Et trois, on a tous des capacités cognitives différentes. Il ne faut pas se mentir. Tu vois, il y a des gens qui tiltent plus vite le métier que d'autres. Et puis, c'est marrant parce que des fois, il y a des gens qui tiltent plus vite au début, mais qu'en fait, sont plus en retard. Tu vois, tu as beaucoup de variations comme ça. Ce qui fait que donner un timing, on le fait parce que les gens le demandent. Mais objectivement, en termes pédagogiques, ça n'a pas de sens. Parce que ces modules, ça varie. Nous, l'idée juste qu'on avait, c'est que la majorité de nos métiers, si tu te bouges un peu et que tu es motivé, tu peux finir en 3-4 mois. Mais ça, c'est plus un choix stratégique de Revoltrain qui est de se dire on veut faire des métiers où tu peux changer de vie massivement et surtout rapidement. Mais tu vois, c'est un choix, c'est quasiment un choix stratégique de boîte. Après, toi, dans l'absolu, si tu as des métiers... des métiers, ou je veux dire des formations plutôt, qui mettent 2 ans, c'est pas grave dans l'absolu. Si tu veux pas borner, tu vas avoir un modèle hybride comme le nôtre, t'as pas de vocation à bloquer, c'est pas gênant. Le seul truc qu'il faut avoir en tête, par contre, c'est que plus c'est long, plus la motivation est décroissante dans le temps. C'est la seule variable qu'il faut avoir en tête. Mais au-delà de ça, nous, on n'a pas de raison de bloquer ou de dire tu vas à tel rythme, telle vitesse, etc.
Ouais, il n'y a pas besoin de mettre ce truc-là. En vrai, c'est intéressant aussi, je me pose la question sur la partie coach. Tu vois, je sais qu'il y a pas mal de gens qui se lancent dans la formation, ils commencent à le faire eux-mêmes, et puis après, ils veulent avoir des coachs, etc. Ouais, ça c'est. J'ai l'impression que c'est une partie qui est assez intéressante. Tu vois, nous, on a aussi un tournant de la boîte, où bah, tu vois là on a 5 coachs qui arrivent, je pense qu'on va en recruter aussi hein, bientôt 5 autres, etc. Tu vois, on commence à grandir en termes de nombre de coachs. Par contre, on a tu vois pareil si on a nos, on prend nos modules, on a des modules qui sont différents et du coup des coachs qui vont pas avoir les mêmes compétences et être bons sur tous les modules. Et en même temps, c'est quand même plus intéressant vu que nous on fait pas de l'inter, on fait de l'intra, donc on accompagne par entreprise, on est sur du B2B plus. Et bah du coup le coach quand même a la volonté si tu veux d'accompagner l'entreprise et ça a du sens d'accompagner que ce soit là une seule personne qui accompagne tout le monde tu vois et pas un coach par module. Toi t'as réfléchi comment le justement l'assignement des coachs par rapport au module, par rapport aux thématiques, est-ce que ce sont des coachs extérieurs qui peuvent aussi varier et qui sont là temporairement, comment tu crées en fait cet écosystème de coach?
Ouais, alors ça déjà première chose à avoir en tête c'est que pour grossir une boîte t'as plusieurs leviers donc comme le code, les process, etc. Et tu es obligé, si tu veux grossir, de mettre en place des leviers. Et le dernier levier, c'est l'humain. Il faut avoir en tête que c'est le plus dur et de très, très loin. Donc, quand tu commences à mettre des coachs, souvent, les gens les voient comme une variable d'un Excel. Ils disent, ah, tiens, je passe de 5 coachs à 10 coachs. Tu n'imagines pas le bordel que tu vas créer. Donc, ça, c'est quand même le warning à avoir en tête. Ce n'est pas neutre de recruter des coachs. C'est hyper dur. Nous, déjà, la première chose, c'est qu'on est intransigeant sur le recrutement. Parce que ça a deux intérêts déjà. C'est un intérêt marketing. Parce que la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils, si on dit les choses honnêtement, ils recrutent des coachs un peu nuls et ils les mettent pas en avant. Mais du coup, ils sont noyés dans le marketing de la boîte globale et c'est pas grave. Nous, on les met quand même pas mal en avant, nos profs. Donc, déjà, on est obligé d'avoir des gens solides. Et deux, c'est aussi au-delà de l'intérêt marketing, c'est nous, ça nous contraint à avoir un accompagnement très quali. Donc, ça, c'est la première chose qu'il faut avoir en tête. Et pour ces coachs-là, donc nous, on prend beaucoup de temps sur le recrutement. On passe pas mal de temps à les aider, etc. Ça, c'est une erreur qu'on a fait au démarrage. C'est maintenant, on a des gens à Revoltrain qui sont dédiés à aider les profs à tout mettre en place, etc. Quasiment un peu des chefs de projet qui sont là en train de...
Ouais, des coachs de coach.
On va aller sur... Ouais, un peu. un peu. Sur, on va plutôt orienter ce module comme ça, comme ça. Tu vois, quelqu'un qui a un peu une vue totale. Et sinon, de manière générale, plus le temps passe, plus je me dis ça sert à rien d'être une armée de coachs, mais d'en avoir peu, qui sont très bons sur à peu près tous les sujets, même si tu peux pas avoir un coach qui prend 100%. Mais tu vois qu'à deux coachs, soit quasiment capable de tout faire, là où avant, t'en coupais 5. Parce que la spécialisation, c'est bien, mais en fait, on voit pas le coût caché de scaler en nombre humain, comme je te disais. Et en plus, l'inégalité de niveau des coachs est énorme. Donc, si tu dois en trouver 5 bons, bah, c'est plus simple, c'est plus dur que d'en trouver seulement 2 bons, quoi. Donc, nous, plus le temps passe, plus on veut des coachs qui passent du temps chez nous et qui sont bons. La seule réserve à ça, c'est qu'on ne veut pas non plus des coachs à 100%. Donc, c'est un peu toujours le truc qui est dur, c'est qu'il y a toujours un sujet de mesure qui est c'est du dosage fin. Parce que tu ne peux pas avoir un coach non plus à 100% parce que tu veux qu'il soit toujours connecté au terrain et au réel. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'avoir des coachs là où dans des boîtes tradies, en vrai, ils passent 5%, 10% de leur temps à former. Chez nous, ils ont 50 à 70% de leur temps qui est dédié à Rival Train, mais au moins 30 et souvent plutôt 50 où ils continuent de pratiquer pour être au top. Mais tu vois, c'est, on essaye toujours d'avoir ce juste truc. Et la troisième chose qui est importante à avoir en tête, c'est qu'il faut les fédérer. Il ne faut pas que ce soit tu vois, des freelances qui sont là sur le côté. C'est, ils font partie de la team, ils font partie du programme. Leur mettre un chef de projet qui les aide, etc., c'est au-delà de l'efficience, c'est même quasiment une marque de respect. C'est de leur dire ils sont importants pour la boîte, on est là pour vous aider. Et donc, c'est un peu tous ces enjeux. Donc, moi, vraiment, ce que j'en retiens, c'est qu'il faut mieux peu de monde et très fort qu'une armée de gens, concrètement.
Ouais, je vois très bien. C'est intéressant. C'est quoi les critères disqualifiants, je dirais, dans tes recrutements de coach? Quels sont les no-go, en gros, que tu peux avoir parce que... Ouais, je dirais plutôt disqualifiant, tu vois. Et après, on pourrait tabler un peu sur le qualifiant, tu vois, mais c'est quoi les critères un peu que tu vas regarder, toi?
Alors, nous, déjà, on a mis en place des choses qui ont changé le résultat et les qualités de notre recrutement, du moins réduit le taux d'erreur fort. C'est déjà, on donne des tests, etc., ce qu'on ne faisait pas du tout avant. Quasiment des process de recrutement assez lourds. Et quasiment volontairement chiant, pas chiant, mais chiant dans le côté dur, pas dans le côté chiant comme le mot veut le dire, mais côté pas facile à réussir. Et ça, parce que ça a un côté où tu vois les gens qui font l'extra mile ou pas. Et le métier de coach, concrètement, c'est le métier de quelqu'un qui à 22h peut se faire emmerder par un élève parce que ça fait 3 heures qu'il est perdu sur son sujet. Donc, si tu n'as pas cette nature d'extra mile, c'est bloquant. Deux, tu as un sujet disqualifiant, c'est le niveau de passion pour le sujet. Honnêtement, tu as quand même une corrélation quasiment automatique entre la passion de la personne. Je pense que c'est assez vrai globalement dans plein de sujets, recrutement, mais là, particulièrement plus, la passion du coach. Donc, tu vois, est-ce qu'il fait l'extra mile? Est-ce qu'il est passionné? Est-ce que sur le sujet, donc c'est un métier technique, est-ce que techniquement il est crédible et il est bon? Pour ça, nous, on n'hésite pas à aller voir des pairs, en fait, que moi, par exemple, j'ai très bon pote sur d'autres sujets, hop, il valide, etc. Donc, c'est un peu ça, tu vois, les critères disqualifiants, c'est est-ce qu'il a le niveau? Est-ce qu'il est passionné? Est-ce qu'il fait l'extra mile? Déjà, avec ça, tu élimines 90% d'erreurs. Et par-dessus ça, tu te maries pas du jour au lendemain, donc tu fais des essais pendant une semaine ou deux, tu vois, tu le suis un peu, ou tu la suis un peu, et là, tu as beaucoup plus de résultats. Élimine beaucoup d'erreurs en fait.
Ouais, tu parlais d'engagement aussi des coachs. Ça, je pense que c'est un gros enjeu. Tu vois, faut pas que ce soit juste des indépendants qui gravitent un peu autour. C'est quoi les actions que tu mets en place? Donc, tu m'as dit il y avait un chef de projet qui va les accompagner. Comment tu arrives à les intégrer, à les sentir valorisés, à faire en sorte qu'ils échangent entre eux? Est-ce que tu mets en place des actions pour ça?
Ouais, alors c'est un truc sur lequel on travaille encore beaucoup. Mais de manière générale, avoir des choses assez claires, assez établies, tu vois, qu'ils sachent dans quoi ils naviguent, ça c'est le premier truc. Deux, que tu aies quand même une perspective d'évolution. Si tu peux quasiment gamifier le truc, en vrai c'est sympa. Quasiment tu es des grades, des machins, tu montes, c'est sympa pour tout le monde. Deux, c'est la reconnaissance d'avoir quelqu'un qui leur est dédié, entre guillemets. Au début, c'est le rôle des fondateurs et c'est important que ce soit les fondateurs. Après, ça peut être d'autres personnes. Le truc qu'on a fait pas mal d'erreurs, c'est les tenir informés, des tenants aboutissants. Même des trucs qui finalement sont un peu indirects. Je parle, on a changé sans marketing, ça. Ça ne doit pas être les derniers prévenus de la chaîne. C'est un maillon à part entière, c'est pas le bout de chaîne. Il y a ça. Les échanges réguliers, c'est important. Je réfléchis en même temps si j'ai pas de derniers tips, mais globalement, en fait, tu n'as pas besoin de réinventer la roue. Tu prends tous les systèmes de qui sont connus dans les enjeux pour fédérer des employés, ou des freelances, ou des coachs, etc. Ça s'applique particulièrement à eux. Et le cinquième truc, spécialement si tu es distanciel, petite rencontre physique, c'est sympa. Notamment si tu peux faire des rencontres avec les élèves, ça, c'est kiff assuré, tout le monde est heureux. C'est ces moments-là de boost, tu vois. C'est, tu vois, mécaniquement à distance, ta motivation descend un peu, hop, tu remets un petit pic avec le physique. C'est important de naviguer là-dedans. Mais.
Ouais, de créer des événements récurrents, et c'est pas mal de ce que tu dis. Tu vas pas que entre coach, peut-être coach et aussi apprenant. Ça peut être trop cool et ça fait une émulsion assez folle. Trop bien. Tu disais du coup, ouais, troisième point pour. Vas-y, dis-moi.
Ouais, les coachs, ça me fait penser que tu dis ça. C'est important qu'ils réalisent qu'ils sont importants pour les gens. Tu vois, tout le monde est drivé, qu'on le veuille ou non, par notre ego. Et franchement, sentir que tu as une place, que tu es utile, c'est de l'ego, mais c'est un vrai kiff, tu vois. Et moi, je me souviens des fois des élèves qui ont vu des coachs, tu vois, limite les yeux qui brillent, tu vois. Et c'est, bah, nous, en plus, on a un cas particulier parce qu'on récupère certains cas de vie difficiles. On leur a changé leur vie grâce aux métiers digitaux. Tu vois, c'est. Là, tes profs, ah, ça te donne le
bon moteur,
tu vois.
Ah ouais.
Ouais. Ouais. Tu vois, c'est comme si tes profs, tu vois, en maternelle, bon, tes élèves, ils te font un peu chier toute l'année. Et à la fin, tu vois, elle te donne le petit chocolat. Tu te dis, putain, j'ai quand même servi un truc. Elle dit, maîtresse, tu vas me manquer. Elle pleure au moment de partir. Tu vois, c'est cette petite récompense. Aussi, c'est important parce que. Moi, je le vois en fait pas mal dans les messages, dans le support, etc. Mais finalement, les profs, les coachs le sentent pas assez, ça. Et c'est important de leur transmettre, de leur faire voir, etc.
Ouais, tu touches un vrai truc. T'as trop raison. On parlait aussi de mise en pratique. Tu disais, tu vois, important dans une formation de mettre en pratique les choses. Qu'est-ce que tu entends par là? Comment vous mettez justement les choses en pratique? Comment tu fais en sorte que bah, tout ce qui est vu soit appliqué et que soit actionnable.
La question à se poser, c'est là où il faut être un peu plus pragmatique et plus lent dans ta réflexion. Maintenant que tu sais le sujet, tu sais le format sur lequel tu pars, qui matche bien ton sujet, c'est comment maintenant tu l'exécutes. Bon, on en a parlé avant avec les coachs, etc., qui étaient déjà dans la partie exécution, mais tu vois, si on reprend l'ordre chronologique, on a le sujet, on a le format. Ce format, comment je l'exécute, donc exemple, ce qu'on disait, une simple formation online asynchrone avec un groupe WhatsApp. Donc, asynchrone, c'est suivi à son rythme. Si je fais ça, tu dois te poser la question de comment j'ingurgite l'info, comment je la découpe, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important, qu'est-ce que je mets dans les bonus. Et les choses qu'il faut retenir de ça, c'est que déjà, il faut éviter le YOLO de ok, ça on me met ça là, ou je verrai plus tard, ou je fais un live, je m'enregistre, etc. Typiquement, un podcast comme celui-là, c'est bien si tu as ça dans ta formation, mais tu le mets en bonus, tu vois, en valeur pure. C'est un peu vite. Si tu peux avoir pas scripté, mais quasiment, tu vois, que c'est un ordre logique précis, et il faut vraiment te poser la question de. Ça, c'est quasiment du copywriting. C'est-à-dire que tu supprimes tous les mots inefficients, inutiles, même ceux qui sont efficaces, mais pas assez efficaces, tu supprimes. Tu vois, il faut élaguer. Parce qu'en fait, ton game, alors beaucoup l'ont fait d'un point de vue marketing, de faire un maximum d'heures de vidéo. Si tu parles d'un point de vue juste pédagogique, c'est l'opposé absolu qu'il faut faire. C'est comment je rentre l'info de manière efficace, dans un ordre logique, en un minimum de temps. Et tu compresses le temps et tu réduis au max. Tu dois être capable, par exemple, en une vidéo de 5 minutes, d'avoir expliqué un sujet, d'avoir mis une histoire pour le mettre en exergue, et d'avoir un exercice pour le pratiquer. Tu vois, tu n'as pas besoin de trois plombes. Bon, que tu fasses de la neuroscience, tu vois, mais sinon, c'est très compliqué comme ça. Après, il faut prendre en compte aussi ton audience. Est-ce que ton audience, elle va plutôt aimer des formats très longs? Est-ce que ton audience, une audience plus jeune, est-ce que du coup, tu vas plutôt le construire comme des vidéos YouTube que tu vas découper? Tu vois, il faut faire tout ce travail que tu as fait normalement avant avec le sujet et matcher la formation. Et donc, la formation que tu as matchée avant, soit tu la matches donc par kiff parce que toi tu te fais, tu t'en fous de la taille de ton business, tu veux maximiser ton kiff perso, ou alors tu la matches avec les besoins réels des gens, et même si c'est pas un format qui te plaît, c'est celui qui est le plus efficient pour ton cas, tu le fais comme ça. Et une fois que tu as ces infos, tu dois vraiment voilà, te réfléchir de comment je les forme, je découpe intelligemment, je fais un suivi qui fait du sens, tu vois, ça doit jamais être ton ego ou tes pensées qui prennent le dessus, mais de qu'est-ce qui fait le plus de sens pour la personne qui m'écoute? Comment je mets cette info-là? Et du coup, tu dois avoir plein de réponses de base. Est-ce que les gens qui me rejoignent sont néophytes ou pas? Est-ce que j'utilise un vocabulaire plus élevé ou un peu plus léger? Quel ton? Est-ce que je dois mettre énormément de pratique? Ou finalement, par exemple, tu vois, tu fais des formations étatiques qui derrière, en fait, ont juste volonté pour les gens de passer des QCM qui leur permet d'avoir des grades au-dessus et d'augmenter leur salaire. Tu as beaucoup de trucs comme ça. Mais tu mets pas d'exo. En fait, tu maximises l'objectif final, donc tu maximises les QCM. Au contraire, dans notre cas à nous, à Revoltrain, donc nous, on veut que des gens pratiquent et soient très forts dans leur métier d'un point de vue technique. Tu minimises la partie théorique et tu maximises la pratique. Et tu vois, il faut vraiment avoir toutes les réponses à ces questions de le ton, l'ordre, qu'est-ce que mon audience aime bien, qui est mon audience, quel est le format qui fait sens, quel est le but derrière ces gens-là, comment je les emmène. Et tu vois, ta formation, métaphoriquement, il faut vraiment la penser comme le véhicule de l'info. Donc, tu prends des personnes qui sont dans un cas A, donc une situation initiale A non souhaitée, ils veulent arriver à une situation B souhaitée, tu as au milieu ta formation qui est le véhicule, et tu dois vraiment le penser en pas faire le véhicule qui te fait kiffer, donc faire une Ferrari, tu vois. Mais par exemple, si tu vas dans le désert, bah, tu vas me faire un 4x4, tu vois, on s'en fout que tu fasses une Ferrari. Et c'est vraiment ça qu'il faut te poser et réfléchir.
Trop bien. Il y a une notion aussi qui me vient en tête, c'est... Quand tu as trouvé le bon format, quand tu as trouvé le bon sujet et quand tu vois un peu ton expérience pédagogique et comment tu veux le mettre en pratique et pour que tu puisses aider tes apprenants à aller à l'étape B, quoi, en gros. Comment tu réfléchis après le scale ou le non-scale? Ça, c'est intéressant, tu vois, parce qu'il y a une réalité qui est effectivement peut-être dans le désert, ce dont tu as besoin les apprenants, bah, c'est un 4x4 tout terrain, trop stylé et tout, mais par contre le 4x4, très compliqué à faire, pas du tout d'économie d'échelle et c'est une galère. Alors qu'à l'inverse, tu pourrais avoir peut-être un truc un peu moins solide, peut-être, tu vois, ou aller peut-être sur un autre terrain, qui n'est pas le sable, mais tu vas aller sur un terrain plus simple, et d'avoir un autre véhicule qui est plus facilement réplicable et qui permet aussi en termes de business, tu vois, de scale. Comment tu vois justement ça? Comment vous avez mis en place même comment vous itérez, parce que je pense que tu dois aussi être en itération à chaque fois, tu vois, sur le bon format de scale.
Alors, ce qui est très très dur avec le scale, c'est que déjà les premières étapes de la formation, elles sont dures. Mais si tu es sur un sujet intéressant et que tu as le bon playbook, tu peux y arriver. Mais c'est pour ça que la majorité des formations s'effondrent au-delà. C'est qu'en fait, là, c'est même plus du tout un sujet produit, là, c'est quasiment un sujet marketing, stratégique, etc. Parce que tu regardes d'ailleurs le marché de la formation, tu as une concentration indécente de formations qui font entre 50 et 1 million par an, à peu près. Et après, tu vois les courbes, les cohortes s'effondrent complet. Parce que c'est la première étape, elle est très dure, mais faisable. Franchement, si tu as le bon sujet, tu as le playbook, tu peux y arriver. C'est pour ça que tu as beaucoup de solo business d'ailleurs dans la formation, où en fait, à l'échelle individuelle, tu gagnes très bien ta vie, c'est top. Mais passer l'échelle d'après, ce qui devient très dur, c'est que tu as beaucoup d'autres enjeux qui rentrent en collusion avec ça, que tu ne maîtrises pas du tout. Déjà, question toute bête, c'est la profondeur de marché. La vérité, c'est que trois quarts, peut-être 95% des formations, il n'y a aucune profondeur de marché pour aller faire plus que ces chiffres-là. Sur quasi toutes les formations, tu peux faire ces chiffres-là, mais ceux d'après, comment tu fais? Si tu as cette profondeur de marché, quel est le coût d'échelle pour aller le chercher? Donc, je parle juste en marketing. C'est-à-dire, par exemple, là, si on parle en marketing pur, tu payes ton prospect X euros. Est-ce que pour aller chercher le bassin d'au-dessus, tu ne multiplies pas par 10 ton coût de prospect? Ou alors, là où tu pouvais vendre simplement, tu es obligé de mettre 5 appels de commerciaux. Donc, tu vois, tu as toutes ces questions-là à te poser. Donc, est-ce que tu as la profondeur? À quel point elle est dure à aller chercher? Et une fois que tu as déjà tout ça, donc qui fait beaucoup de variables, est-ce que tu as l'équipe, tu as les reins pour y aller, financier, toutes les ressources qui font humaines, financières, etc. pour y aller. Donc tu passes déjà ces trois barrières, donc déjà tu élimines l'extrême majorité des boîtes dans la formation. Là seulement tu arrives au produit. Et tu vois, tu as beaucoup de... Comment... Tu as beaucoup de if, quoi, avant. C'est ça le problème, tu as beaucoup de choses qui peuvent être bloquées. Si par chance tout s'aligne, là, ça devient un enjeu de produit, et ton enjeu de produit... qui est vraiment pas simple, c'est du coup de toujours avoir le meilleur véhicule, mais de réussir à le passer à l'échelle. Donc, c'est mettre du scale partout tu peux en mettre. Donc déjà, tous les trucs qui peuvent être automatisables, codés, etc., il faut y aller à fond. Il faut tout faire sauter, simplifier au max. L'humain, il faut le scaler. Donc là, c'est le scale le plus dur. Donc l'humain commence à scale par de la culture et du process, de manière générale. Mais c'est, tu vois, tu rentres dans des problèmes où, tu vois, t'es dans les industries les plus dures à scaler en termes de produits. C'est pour ça que celles qui ont quand même moonshot dans les formations, t'as quand même beaucoup de self-courses, type Coursera, Udemy, etc. Parce que eux, ils ont enlevé la barrière produit, quoi. Tu vois, ils ont passé les trois premières, mais ils n'avaient pas sell produit. Donc toi, quand t'as sell produit, il faut scaler. Là, c'est les mêmes galères que tu vas en un poil plus simple, mais que tu vas rencontrer, par exemple, si t'es une agence, quoi. Et bah, t'as 5 consultants, comment tu passes à 500? Bah, c'est un peu les mêmes trucs. Donc, tu rentres dans des notions pour lesquelles tu n'avais pas spécialement signé à la base ou tu connaissais à la base pour ta formation. Tu vois, bon, nous, ce n'était pas le cas à Revoltrain, mais la plupart des gens, ils ont lancé ça comme un petit business sur le côté. Il faut sincèrement se poser la question de bah, est-ce que j'ai envie de payer ce coût culturel, mise en place d'équipe, les process, etc. Mais tu ne peux pas scaler autrement. Et après, tous les trucs un peu malins que tu peux faire, bah, il faut le faire. C'est un peu la course continue à l'amélioration incrémentale. Tu sais, c'est un peu le moment dans ton business où tu passes d'une énergie un peu entrepreneur à une énergie plus manager, tu vois. Où tu te dis, OK, là où avant tu vas chercher les énormes améliorations, là tu vas chercher les petits pourcentages qui font que tu vas mieux. Comment tu fais ? N'importe quoi. Imaginons si tu as des accompagnements de coach, tu poses la question, quelle est ma data de coach accompagné par humain, par coach, coach accompagné, de élève accompagné, pardon, par coach, bah t'es à 105, comment tu fais 107, tu vois. Et c'est, mais t'es constamment, tu vois, ça scale quand même mieux que, ça scale la plupart du temps, selon le type de formation que t'as fait de base, ça scale le mieux qu'une agence, tu vois, mais c'est pas un SaaS, tu vois, c'est une échelle, t'es un peu au milieu, quoi, donc faut comprendre que ça scalera moins vite qu'un SaaS, ou alors il faut être très fort sur ces sujets culturels, process, etc., et ou avoir le bon type de formation qui match avec ton audience, quoi. C'est sûr que si tu peux avoir une formation self-service, ah oui, c'est mieux qu'une formation où c'est du présentiel, où tu prends 5 personnes par 5, tu vois. Mais ouais, t'as toutes ces questions-là à te poser. Et il faut être honnête et c'est pas facile. C'est dur, mais ouais, c'est ça qu'il faut regarder en face.
Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Trop cool. Bah, merci à toi, Corentin. Franchement, c'était super clair. C'était super intéressant. On arrive à la fin de l'épisode. Je voulais savoir si tu avais un dernier conseil d'amis pour ceux qui nous écoutent. Ça peut être sur la formation, ça peut être sur l'entrepreneuriat, ça peut être sur le scale, sur ce que tu veux.
Des produits. ouais, dans la formation, je dirais ce que je disais un peu au début, que j'imagine tu as plus de gens, comme j'ai expliqué, qui sont au début d'un lancement de parcours de formation qu'à la fin. Il faut vraiment se poser la question de je fais pas des trucs parce que ça brille, mais vraiment de poser sincèrement la question de c'est quoi la situation initiale A de ma personne, résultat B, et c'est quoi le meilleur véhicule au milieu, quoi. C'est vraiment, tu dois être obsédé par ça au début. Et donc c'est pas vraiment une citation, mais c'est franchement, honnêtement, tes 6 premiers mois quand tu lances une formation, c'est ton unique sujet, quoi. C'est vraiment comment j'itère mon... En fait, est-ce que j'ai le bon véhicule, comment j'itère, comment je l'améliore, quoi. C'est vraiment tout le sujet.
Ouais, je vois très bien ce que tu dis. Et même là, tu vois, nous on le ressent un peu, on a un peu le cul entre deux chaises. Je sais pas si tu l'as vécu aussi. Mais du coup, tu vois, de la situation A à la situation B, nous, on se rend compte bah, qu'effectivement, la formation, comme on le fait, e-learning, tu vois, c'est bien et ça aura de l'impact. Mais ce qui aura encore plus d'impact, ça va être bah, d'avoir du coaching, de mettre les mains dans le cambouis, tu vois, limite faire du consulting, en gros. Et du coup, tu vois, de la frontière, elle est assez mince, tu vois, entre formation, consulting, le business model aussi, c'est un peu différent.
Accompagnement, ouais, c'est... Il faut vraiment comprendre que c'est un spectre. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Il faut vraiment. Et en général, malheureusement, plus tu es B2B, plus tu es proche de l'accompagnement. Mais c'est. Attention à avoir en tête, c'est pas si négatif que ça. Parce qu'en fait, comme tu peux avoir des gros paniers moyens, tu peux quand même scaler avec moins de leads. Donc, tu vois, l'un dans l'autre, tu peux t'y retrouver quand même largement. Mais ouais, il faut comprendre et vraiment être honnête sur là où tu es dans le spectre. Je vois très bien ce que tu veux. C'est inventer une réalité.
Clairement. Trop bien. Bah, merci à toi, Quentin. C'était trop cool. Je te dis à très vite. Et puis, prends soin de toi.
Ouais.
Salut.
Merci.
Ciao.
Ciao.
J'espère que cet épisode t'a apporté de la valeur. Si tu veux me motiver et me soutenir pour faire encore plus de contenu, tu peux mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et me confier tes problématiques en commentaire. Tu peux aussi le partager autour de toi si tu penses qu'il peut aider. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi.